Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Dimension, comme annoncé dans la vérif dédiée au hit de Michael Mann. Je vous avais dit que je bouclerais cette saga Predator, que j'ai commencé en fait il y a un an, voilà, quasiment jour pour jour. Donc on boucle cette saga Predator, et pour citer bien entendu l'un des personnages, l'un des seconds rôles du premier film, cette personne-là explique à Arnold Schwarzenegger que le Predator débarque souvent quand il fait chaud, et cette année il fait très chaud, donc c'est pour vous dire que c'est un podcast que j'enregistre pour la première fois en tongs et en short, donc c'était important pour cette troisième partie. Est-ce que c'est la meilleure partie? Je ne sais pas, je ne crois pas, on verra, c'est vous seul auditeur, auditrice qui jugerez. Donc vous avez vu, hein, j'essaye d'occuper les premières minutes de ce podcast pour trouver mon rythme et mon flow. Donc on attaque la dernière partie en fait, et on avait laissé les Yautja. Alors je le rappelle, hein, Yautja, Yautja, c'est le nom de l'espèce, de la race des prédateurs qui, selon le méchant en chef de cet opus réalisé par Shane Black, est un prédateur parce que c'est plus cool que chasseur sportif. Donc voilà, donc les Yautja, on les avait abandonnés, alors déjà en crossover avec la saga Alien, et comme je vous avais livré mon sentiment sur ces séries Z-là en compagnie de Thomas, donc vous comprenez bien que c'était une parenthèse, on va dire, dans le bas du classement, dans le côté Z de la chose. Donc voilà, donc on en parle parce que c'est un crossover, mais ça ne rentre pas, en tout cas pour ma part, et je pense pour les fans de la saga Predator, dans le canon officiel en fait de la saga des films. Donc on va considérer que nous sommes arrêtés au troisième opus. Ce troisième opus, c'était le Predators de Robert Rodriguez, c'était pour l'année 2010, réalisé par Nimrod Antal, et ça n'avait pas été non plus une mauvaise affaire, donc on pouvait être en droit d'attendre. Au vu de l'univers qu'avait posé le scénario de Robert Rodriguez, à ce qu'il y ait une suite, en fait, hein, sur cette, je le rappelle, hein, sur cette planète d'entraînement dédiée au Yautja, où ils y larguent, en fait, tous les mercenaires les plus dangereux, ou du moins toutes les créatures les plus dangereuses de l'univers. Donc, effectivement, on aurait pu attendre une suite, et ça n'arrivera pas. Et c'est dès l'année 2016, voilà, que le producteur John Davis commence à communiquer par le biais d'informations distillées, ça et là dans le Hollywood Reporter, comme quoi le scénariste et réalisateur Shane Black reviendrait dans la franchise Predator pour s'occuper de la réalisation et du scénario de ce quatrième film. Donc on a eu droit à Predator, nous avons eu droit à Predator 2, nous avons eu droit à Predators, et là, bah, c'est The Predator, et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, à ce niveau-là. Donc, ce The Predator, sorti en 2018, il a eu une gestation, en fait, plutôt douloureuse. Donc si le démarrage s'est fait correctement, c'est plutôt lors de la production de l'œuvre elle-même et surtout le résultat final qui a été réceptionné qui en fait un film malade. Voilà, il y en a quelques-uns hein, des films malades. Hein. John McTiernan, par exemple, hein, voilà, qui est d'ailleurs, on va dire, un collaborateur de Shane Black, hein, parce que Shane Black a signé de nombreux scénarios officiellement ou officieusement de John McTiernan, mais si l'on prend le Rollerball de McTiernan, par exemple, c'est un film qui a été charcuté, mais qui arrive à conserver la hargne en fait, du réalisateur qui le caractérise. Donc, ce The Predator avait le goût, l'odeur, quelque part, de ce qu'on pourrait appeler la légitimité. Parce que dans tous ceux qui ont pu, on va dire, intervenir sur la saga Predator jusqu'à présent, hormis, bien entendu, John McTiernan, il n'y avait pas forcément de légitimité. Donc Stephen Hopkins a emballé ce qui est de loin, on va dire, alors, je ne vais pas faire encore mon classement, ça arrive en fin d'épisode, hein, de clôture de la saga Predator, donc, mais il avait emballé une suite qui, à défaut d'égaler ou de surpasser l'original, lui tenait la dragée haute, donc ça c'était plutôt pas mal. Après, bon, hormis les crossovers et le Predators de Robert Rodriguez, on tombe, on va dire, en gamme, quelque part. Ça, je l'avais dit, notamment sur le Predators de Robert Rodriguez, que niveau effets spéciaux, tout ça, bon, ça sent bon le caoutchouc et le slime, hein, quelque part. Hein. Donc on va dire que la mandibule du Yoda, elle vacille un petit peu, elle sent le caoutchouc. Donc, en termes de légitimité, pourquoi Shane Black est peut-être plus légitime, ou on pourrait se dire, avant de voir le film, qu'on a en droit d'attendre quelque chose de peut-être plus intéressant que par le passé, c'est parce que Shane Black, ça je l'avais déjà dit dans la première partie de cette série de podcasts dédiés à la saga Predator, c'est qu'il incarnait un des rôles de premier plan dans l'équipe du Major Dutch. Il s'occupait, son rôle c'était celui d'Hawkins, hein, c'est-à-dire le gars qui fait les blagues et du coup qui a une durée de vie très limitée dans le film, voilà. Donc il occupait ce rôle-là, et c'était aussi un moyen, parce que c'était un moyen par les producteurs de l'époque, que d'obtenir de Shane Black qui puisse réviser le script, et il faisait office de script doctor, et c'est lui qui a amené en fait tous les dialogues, voilà, qui font le charme du travail de Shane Black dans le scénario, dans ce qu'on a pu recevoir au niveau du Predator original de John McTiernan. Et c'est ce qui faisait aussi, on va dire, la structure même, l'unité de cette équipe de gros bras mis en scène par John McTiernan. Donc effectivement, sur le papier, quand on entend le nom de Shane Black, on peut se dire, on a en droit, au moins, d'atteindre une bonne caractérisation des personnages, que ça soit des personnages de premier plan et de second plan, voire de troisième plan. Alors, on va faire un petit point Shane Black, on va dire, dès le départ pour cet opus de Predator. Alors, ce qu'il faut savoir avec Shane Black, ça je l'avais déjà dit aussi dans un autre épisode dédié à Once Upon a Time in Hollywood sur Tarantino, c'était l'occasion de parler de Tarantino d'ailleurs dans cette vérif, c'est que Shane Black, c'est un petit peu le pré-Tarantino en fait. Voilà. Donc comme par exemple Ridley Scott dans Prometheus, hein, la saga Alien, va vous parler du proto-Facehugger, ben là on a le proto-Tarantino, donc Shane Black c'est l'ancêtre quelque part, ou le maître à penser, le modèle de Tarantino. Donc Shane Black se fait connaître parce que c'est lui avec d'autres scénaristes de la fin des années 80, début des années 90, 90 comme Joe, putain, j'ai pas arrivé à le prononcer, j'en étais sûr, quand j'allais chercher le nom de Esther Zast, bon voilà, vous comblerez les trous, il a un nom imprononçable, mais c'est le scénariste du coup de Basic Instinct. Donc comme ce scénariste là et aussi à l'image d'un Andrew Kevin Walker pour le script de Seven et après de 8 mm, ce sont des scénaristes stars qui vendent très très bien à coup de millions de dollars leur scénario. Donc effectivement, Shane Black, lui, commence à travers le travail de scénariste et au travers, plutôt, on va dire. Et c'est vrai que son premier scénario, qui va le faire connaître à Hollywood, qui va tourner un peu partout, c'est L'Arme Fatale, les Sal Weapon en version originale, mettant, donc c'est du buddy movie, donc mettant en scène Mel Gibson et Danny Glover. Donc, alors, il signera ce premier scénario, ainsi que l'histoire du deuxième. Parce que là, même en faisant quelques petites recherches, je fais toujours quelques petites recherches hein, avant d'entamer une chronique ou une saga ou une filmographie, et même si j'ai quand même les informations en tête, je fais toujours une petite recherche, et c'est vrai que ça fait quelques temps déjà que quand on tape Shane Black, on voit scénariste des Armes Fatales. Non, c'est pas le scénariste des Armes Fatales, c'est le scénariste de L'Arme Fatale 1, et derrière l'histoire originale du numéro 2. Pourquoi ça s'est arrêté là? C'est parce que il avait une volonté, en fait, de faire mourir, dans le deuxième opus, le personnage de Mel Gibson, et tout le monde s'y opposera. C'est pour ça qu'il n'a pas signé complètement. Ils n'ont pas pris la fin originale qu'il avait écrit. Donc c'est pour ça qu'il est auteur de l'histoire originale, et pas scénariste de L'Arme Fatale 2. Et bien entendu, il n'a pas signé les merdes innommables que sont L'Arme Fatale 3, et surtout ce dub qui est L'Arme Fatale 4, avec Jet Li. Voilà, ça c'est dit. C'est positionné. D'ailleurs, je pense qu'il serait temps aussi que je me cogne la saga L'Arme Fatale. Juste pour votre plaisir masochiste de m'entendre déblatérer ce genre de conneries sur au moins L'Arme Fatale 3 et 4. Voilà. Donc, de ce que je me souviens de bien dans L'Arme Fatale 3, c'est le générique de fin. Donc ça, c'est déjà plutôt bien. D'arriver jusqu'au générique de fin et du morceau de musique d'Eric Clapton. Voilà. C'est tout ce qu'il y a de bien dans le 3. Et le 4, n'en parlons pas. Bref, donc il s'occupe de L'Arme Fatale 1, il signera le scénario de l'un des meilleurs films de Bruce Willis, qui est Le Dernier Samaritain, The Last Boy Scout, du coup en version originale. Il s'occupera aussi de Last Action Hero de toujours McTiernan. Il aidera son pote Fred Decker au scénario de Monster Squad, et on lui devra aussi une Gina Davis comme jamais sur grand écran, voilà, comme on ne la reverra plus jamais à l'écran, dans Au revoir à jamais, vous avez vu, j'ai placé à jamais, comme jamais à l'écran, il fallait la faire quand même. Il est aussi connu comme script doctor. Donc qu'est-ce que c'est qu'un script doctor? Eh bien, c'est quelqu'un qui passe derrière quelqu'un d'autre qui sera non crédité pour arranger soit les dialogues, soit le climax d'un scénario, ou on va dire la structure en elle-même du scénar avant d'être tourné, ou à même le tournage. Donc il fera cela sur Predator, sur La Poursuite d'Octobre Rouge, sur Flic ou Zombie. D'ailleurs, voilà, si vous avez pu mettre la main sur ce film de Mark Goldblatt, donc réalisateur aussi du seul et vrai Punisher avec Dolph Lundgren, vous comprendrez mieux les dialogues, notamment menés par Treat Williams, qui est cette patte, cette verve, on la doit à Shane Black. Et il ira aider son pauvre ami sur l'immonde Robocop 3. Oui, vous avez bien lu. Voilà, Robocop 3. Et il réussira à sortir des limbes de cette traversée du désert qu'il connaîtra après Au revoir à jamais, en passant à la réalisation avec succès à l'occasion de Kiss Kiss Bang Bang, voilà, qui permettra aussi de remettre en selle l'acteur Robert Downey Jr. Voilà, parce que c'est de là que ça part en fait. Hein. C'est grâce à ce film-là que Shane Black, lui, est de nouveau en odeur de sainteté à Hollywood, et permet aussi à Robert Downey Jr. d'excuser ses années passées à sniffer de la coke et s'injecter de multiples produits, voilà, pour devenir le Tony Stark que l'on connaît. D'ailleurs, c'est Shane Black qui conseillera du coup à Kevin Feige, voilà, tout ça vous ne le saviez pas, peut-être que certains le savent, mais on va quand même le dire, qui conseillera en fait à Kevin Feige d'embaucher Robert Downey Jr. pour incarner Tony Stark dans la franchise Iron Man. C'est ainsi qu'il y aura un retour d'ascenseur de la part de Robert Downey Jr. qui fera appel du coup à Shane Black pour les besoins d'Iron Man 3, qui sera l'un des films les plus rentables de la franchise Iron Man, voilà. pas par sa qualité, mais parce que, on va dire qu'à un moment donné, le business model de chez du Marvel, Marvel Cinematic Universe, arrive à son paroxysme à ce moment-là. Donc, et il confirmera par la suite, au travers d'un nouveau buddy movie qui a des odeurs, qui a des relents de l'arme fatale, qui s'appelle The Nice Guys. Ce film sera l'occasion pour Ryan Gosling de varier un petit peu son jeu et de marquer aussi les esprits, hein, parce que jusqu'alors, il était abonné aux comédies sentimentales et surtout en héros d'action à la mâchoire serrée pour les besoins du drive du Danois fou Nicolas Winding Refn. Voilà. Donc, voilà pour le postulat de Shane Black. Donc, on a quand même un sérieux concurrent, parce qu'on pourrait se poser la question, à la succession de John McTiernan. Voilà. Donc, ce film-là, il va faire appel, pour les besoins de ce film, il va faire appel à son compadre de toujours, c'est-à-dire Fred Decker. Et Fred Decker, je l'avais déjà chroniqué ici même, pour son très con en version française extra sensu, plus connu outre-Atlantique comme Night of the Creeps, voilà, la nuit des sensus. Donc j'avais chroniqué ça dans une des premières vérifs, hein. Ça c'était pour l'année 2020, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Donc il fait appel à ce réalisateur et scénariste-là, hein, parce que Fred Decker, on lui doit les scénarios du déjà très salé House de Steve Miner, de Ricochet de Rossel Mulcahy, et aussi de quelques épisodes des Contes de la Crypte, donc autant dire que le genre horrifique, il connaît, et c'est aussi le réalisateur alors du très cool Night of the Creeps, du plutôt sympa Monster Squad et de l'ignominique et Robocop 3, mais c'était aussi un film malade à l'époque, donc c'est quand même le troisième opus d'une franchise qui va péricliter suite à cette suite-là. Et qu'est-ce qu'on y voit dans Robocop 3? On y voit notre bon vieux Robocop affublé d'une gamine horripilante se battre contre des ninjas et surtout avoir un jetpack dans le dos pour pouvoir voler. C'est ignoble, ça a existé, ça s'appelle Robocop 3. Donc voilà pour la team de gagnants derrière le scénario de The Predator. Alors, il y a déjà une volonté de la part de Shane Black et de Fred Decker de peut-être réfléchir à prendre une autre direction que celle de John McTiernan. De toute manière, cela fait déjà, on va dire, on exclut les crossovers, ça fait déjà deux films, donc c'est-à-dire Predator 2 et Predators, qu'on raconte plus ou moins la même histoire, qui est la suivante, c'est-à-dire que on va avoir un groupe de personnages qui va se dire « Oh mon Dieu, il y a une menace invisible, oh mais est-ce qu'il serait pas en train de nous chasser ?» puis les exterminer l'un après l'autre. Autant le 2 est malin parce qu'il remplace en fait la jungle par la jungle urbaine, autant le 3, bon, bah, il fait un entre-deux. Il se dit, bon, bah, on va prendre une jungle, une vraie, mais ça va être sur une autre planète. Voilà. Mais on a toujours ce groupe de personnages, etc. Donc, on commence, en fait, à être dans le cliché. Voilà, on commence à être dans le cliché. Et effectivement, il est temps de prendre le contre-pied. Et c'est vrai qu'au travers de l'histoire de ce The Predator-là, il y a une volonté, quand même, de Shane Black et Fred Decker d'aller creuser et d'enrichir la mythologie du Predator, comme avait pu le faire déjà James Cameron pour les besoins du deuxième Alien par rapport à la mythologie mise en place dans le premier par Dan O'Bannon et Ronald Chaussette. Donc effectivement, on peut saluer cette volonté et aussi d'amener le film autre part et de ne pas, on va dire, répliquer le travail déjà fait. Donc déjà, on peut saluer cette idée-là. Donc déjà, au niveau du casting, donc, qui c'est qu'on va retrouver au casting de ce Predator de 2018, hein, vous m'entendez toujours en termes d'ASMR tourner mes jolies feuilles de papier, c'est très important. Donc, on va retrouver Boyd Holbrook. Alors, Boyd Holbrook, c'était pas celui qui était forcément attendu en tête d'affiche, parce que au départ, on devait avoir Benicio Del Toro. Donc oui, voilà, pour monter cette information, mais pour un conflit d'emploi du temps, et ben du coup c'est Boyd Holbrook qui le remplace, ce qui, au final, quand on voit les deux acteurs, n'a rien à voir. On pourra dire que Boyd Holbrook, c'est un peu le mercenaire de chez Netflix et du cinéma en général, à ce moment-là, et effectivement, j'avais fait déjà le lien avec d'autres acteurs qui tournent en ce moment sur les plateformes. T'as l'impression que tu l'as vu un peu partout, et c'est un peu le cas, en fait, hein, avec Boyle Brook. Donc, il incarne le personnage principal, qui est celui, en fait, d'un tireur d'élite. Alors, c'est mi-tireur d'élite, mi-mercenaire, voilà, Quinn McKenna. Et Boyle Brook, on a pu le voir, notamment, du coup, chez Fincher pour les besoins de Gone Girl. On l'a vu chez Mangold pour Logan. Alors, il joue un bad guy, donc il peut tout faire, hein, Boyle Brook. Hein. Boyd Holbrook, on va bien. Putain, ça, c'est encore un nom à coucher dehors. Hein. Je suis désolé, Boyd, hein, mais vraiment, c'est une tannée. Hein. Il est surtout aussi connu pour avoir fait quoi ? Partager l'affiche avec l'équivalent, on va dire, hispanique de lui-même, c'est-à-dire Pedro Pascal dans la série Narcos. Hein, voilà, donc c'est ce qui est très bien avec les années, à la fin des années 2018-2019, début des années 2020, c'est que bon, Boyd Holbrook, Pedro Pascal, tu fais ton anniversaire, t'as une vidéo à faire, tu peux les avoir en fait. Hein, voilà, c'est à peu près l'idée. Et dernièrement, on a pu le voir, enfin moi j'ai pu constater, on va dire, avec dureté et très longuement, son jeu dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, voilà, qui est un film qui dure bien trop longtemps, voilà, donc c'est-à-dire plus de 2h30, une souffrance, voilà. Donc voilà à peu près pour les rôles les plus marquants, bien entendu, vous allez me dire, ah mais t'as oublié de citer ci, ça, ça, je cite les rôles marquants. On va dire, esprit années 80 oblige, pour occuper ta rétine, parce que c'est ça qui est bien avec Shane Black et Fred Decker, c'est qu'ils pensent un peu à tout le monde, donc il y a un peu cet esprit actionneur années 80, et bien il y a la très mignonne Olivia Munn, voilà, dans le rôle d'une biologiste préoccupée, bien entendu, par les êtres venus du ciel, voilà, qui s'appelle Kazé dedans, et alors, en VO, c'est Kazé, mais ça sera dit Cassie. Donc, on dira Cassie parce que c'est plus facile à prononcer. Donc, voilà, on fait comme nos doubleurs en VF. Qu'on a pu voir très rapidement à poil dans Magic Mike. Donc, dès les premières intros. Donc, c'est ça qui est bien. Voilà, merci, monsieur Soderbergh aussi. C'était un grand moment de cinéma. On la verra chez Derrickson pour les besoins de Délivre-nous du mal, et on la verra aussi faire un joli hommage aux couvertures des Strange et des Nova dans le rôle de Psylocke et de cette somptueuse tenue pour les besoins du X-Men Apocalypse de Bryan Singer, qui d'ailleurs porte bien son nom. C'est une belle apocalypse cinématographique. Bien entendu, film de Shane Black oblige, suite de Predator oblige, c'est aussi un film de groupe. J'aurais pu aller creuser la filmographie de tous les deuxièmes, seconds couteaux répondant à des noms de villes comme Nebraska ou autre, mais malheureusement, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, je les passerai sous le silence pour m'attarder quelques minutes sur le cas particulier d'un des dixièmes couteaux du film, qui est Thomas Jane. Donc, c'est-à-dire que dans le rôle d'un dixième... Enfin, voilà, dans un dixième rôle, on a Thomas Jane. Et ça, c'est vrai que ça peut prêter à questionnement, donc je suis allé creuser la question. Alors, Thomas Jane dans The Predator donc incarne un ex-mercenaire qui agite de la tourette. C'est incroyable. Donc, ça ne sert à rien dans le film, mais au moins ça te fait rire. Mais par contre, ça n'amène rien au film, à part des nique sa mère, ou d'autres joyeusetés du genre en VO ou en VF. Mais ça ne sert à rien, mais je salue la connerie de l'idée. Merci Shane Black d'avoir mis un personnage atteint de Gilles de la Tourette, juste pour notre grand plaisir. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi prendre Thomas Jane. Alors Thomas Jane, ce qui est bien avec Peterson, c'est qu'on l'a toujours vu comme une sorte de Samuel Le Bihan américain, ou on a toujours vu Samuel Le Bihan comme la version française de Thomas Jane. Donc, c'est-à-dire que le mec, il débarque au début des années 2000, tu le vois en tête d'affiche de Dreamcatcher, il fait The Punisher de Jonathan Henslade, où il a face à John Travolta, tu le retrouves de nouveau dans une adaptation de Stephen King dans The Mist, et puis après, au revoir. Ah, tu comprends pas, tu sais pas ce qui s'est passé. Le mec a jamais confirmé. Tu le retrouves à la tête d'une série qui s'appelle The Expanse, et puis voilà. Et puis de temps en temps, tu le revois chez Flanagan pour les besoins de Netflix. Il y a une carrière qu'on comprend pas. Je sais pas. Moi, j'essaie de chercher parce qu'en plus, le mec a ramassé. Hein. Je veux dire, le mec a 54 ans. T'as l'impression qu'il en a 10 de plus. Il a dû arriver un truc. J'ai creusé. J'ai pas trouvé. Mais par contre, voilà, vous nous connaissez à 7ème dimension. Voilà, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Et c'est aussi les ragots. Donc moi j'en ai un sur Thomas Jane qui n'a rien à voir avec la saga Predator, mais il fallait en parler. Donc l'ami Thomas Jane, il a quand même incarné pour les besoins d'une série HBO qui s'appelle Hung, que je n'ai pas vu, mais j'ai trouvé l'anecdote assez intéressante. Il a incarné un mec qui se reconvertit comme escort boy parce qu'il est doté d'un pénis de 23 cm. Donc ça c'est drôle. Et quand tu relis l'info, t'as l'acteur, donc en l'occurrence Thomas Jane, qui, au HuffPost, explique, en fait, qu'il est très heureux lui-même d'avoir un pénis de 17 cm et qu'il ne manque jamais une occasion de le montrer en soirée. Voilà. Donc peut-être que cette anecdote est la réponse à la question de pourquoi Thomas Jane ne tourne plus. Parce que si, en fin de tournage, le mec monte son pénis et ses putains de 17 cm alors que tout le monde s'en branle, effectivement, ça peut poser des problèmes, donc peut-être que 7ème dimension a résolu cette incroyable équation. Donc, parenthèse sur le nombre de centimètres de Thomas Jane refermé, dans le rôle du bad guy de service, incarné avec gourmandise, j'ai jamais vu un acteur aussi content d'être méchant dans un film, ça faisait longtemps. Ça m'a rappelé vraiment les années 80 et notre ami de Commando, voilà, qui aimait bien brandir son couteau et qui avait une demi-gueule à chaque fois qu'il voyait Arnold Schwarzenegger. Donc effectivement, dans le rôle de Traeger, nous avons Sterling K. Brown, qui passe son temps d'ailleurs à manger des chewing-gums. Et je pense que, alors j'ai pas creusé, mais connaissant les petites allusions, des petites historiques de Shane Black, ça doit être au moins du chewing-gum à la nicotine, ou un truc du genre qui ferait écho au cachet d'aspirine aussi, que peut avoir John McClane dans le troisième opus des Die Hard. Donc voilà, on fait un petit lien. Donc Sterling K. Brown, on a pu le voir dans Split de Shyamalan, et dans Black Panther, et bien entendu, tu as pu le voir, toi, ami auditeur, toi, ami auditrice, si tu jettes tes yeux dans les tréfonds de la télévision, il est partout, voilà, et nulle part en même temps. Et à noter dans un millième rôle, le fils de Gary Busey, antagoniste de Predator 2, donc Jake Busey, dans le rôle du propre fils de l'antagoniste qui est mort dans le 2, si vous suivez toujours, dans le rôle de Sean Keyes. Et Jake Busey, ce qui est bien, c'est que quand son père mourra, et il pourra remplacer son père parce qu'il a la même tête. Et ça, c'est bien. Donc, c'est le sourire gourmand. Et on a pu le voir dans Starship Troopers, Phantom contre Phantom, une saison de Stranger Things et un milliard de DTV derrière. Voilà pour les noms, on va dire, les plus connus de ce The Predator. Alors, ce qui est bien avec ce The Predator, c'est qu'en plus, on a toujours la bonne Dream Team à la prod, hein, c'est-à-dire Davis, Gordon et Joel Silver, et ils donnent une enveloppe de 88 millions de dollars à notre ami Shane Black pour se faire plaisir. Et on peut dire qu'il se fait plaisir, parce que ce film, qui dure un peu moins de 2 heures, même s'il a été charcuté dans tous les sens, eh ben il fait plaisir, voilà. Et à chaque fois que je le revois, eh ben je vois un nouveau petit truc à l'intérieur, une vanne supplémentaire, et c'est un plaisir de chaque instant. Et je ferai un petit parallèle, de toute façon, entre les deux films, parce que ce qui sera intéressant, c'est de comparer un film comme celui-là, fait par, on va dire, des représentants des années 80-90, ensuite t'as le Covid, et ensuite t'as prêt. Voilà, donc ça sera bien de faire la comparaison entre ce qu'on pouvait faire avant les confinements de l'enfer et ce qui a suivi derrière et tout le reste. Donc ça sera intéressant à ce niveau-là de pouvoir faire un comparatif. Donc, mais que raconte en fait ce fabuleux film The Predator ? Voilà. Alors, on y suit, voilà, dès le départ. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est immédiat dans l'action. Donc, on va être aux côtés, en fait, de... Alors là, je prends mon petit papier, hein, parce que voilà, oui, voilà, son prénom, c'est ça. Nous allons être, du coup, aux côtés du personnage de Quinn McKenna, donc de Boy Holbrook, et lors d'une mission, comme peut l'avoir n'importe quel mercenaire lâché par son pays quelque part dans un module top secret, eh ben, nous avons un vaisseau Predator qui a été poursuivi par un autre vaisseau Predator. Là, il y a une course-poursuite dans l'espace, ce qui fait écho à l'entrée en matière du premier film. Dans le premier film, le vaisseau larguait quelque chose, c'est-à-dire un Yoja sur Terre. Et dans celui-là, ce sont en fait deux vaisseaux qui se poursuivent, et en fait, le premier vaisseau va s'écraser, et c'est ce que constate en fait le personnage de Bob Holbrook. Donc, on a le vaisseau qui s'écrase, Lui, il était à ce moment-là, en fait, sur une petite OP, mettant en scène quelques narcotrafiquants. Et quand on voit l'origine de ces narcotrafiquants, c'est-à-dire colombiens, ça fait un petit écho, voilà, c'est un petit clin d'œil. Sur cette action-là, où on est in medias res avec le personnage, t'as le vaisseau du Predator qui vient foutre le bordel, qui vient s'écraser, voilà. Et à ce moment-là, parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il a, il y a quand même un espèce de vieux background. Moi, ce que j'aime bien avec Shane Black, hein, c'est que en bon bourrin des années 80, tu sens que le leader de la team, en l'occurrence Quinn McKenna, il a un vieux passif, avec ses collègues. Si c'est pas l'Afghanistan, c'est autre chose, et ainsi de suite. Et donc, du coup, très rapidement, son unité, alors elle est pas grande, hein, qui est composée de deux autres gars, se fait décimer en mode... habituel du Predator, quel est-il ? Bon, coucou, je débarque dans une soirée, je vous pends par les pieds, je vous enlève la peau et la colonne vertébrale si possible. Voilà, c'est à peu près ça. Et ce que j'aime bien déjà d'entrée de jeu, dès les premières minutes, c'est que y a pas de distinguo. Voilà, le Predator, il est inclusif. C'est-à-dire qu'il se fait autant les mercenaires que les dealers ou les narcotrafiquants. Voilà, tout le monde au même tarif. Et ça, faut le souligner quand même, par les temps qui courent, que dans un film de SF avec une créature qui chasse de l'être humain, qui a un côté un peu inclusif dans l'histoire. Voilà. Donc, effectivement, le personnage de Boyle Brook, eh ben, il est pas très content de voir ses potes sans peau, il en avait pas demandé autant, pendu par les pieds. Voilà, donc il se met en tête d'essayer de le dézinguer. Ce qu'il arrive plus ou moins quand même, hein. Et on, alors pour les puristes, vous pourrez dire, hein, parce qu'il y a toujours une vieille guéguerre dans la saga Predator, il y a toujours les gens qui disent « Ouais, mais tu comprends, Danny Glover, il était moins baraqué qu'Arnold Schwarzenegger, et Adrian Brody était déjà moins baraqué que Danny Glover, donc forcément Boyle Brook, il va avoir, la même stature, la même morphologie qu'un Adrian Brody. » Mais en fait, c'est pas ça qu'on leur demande, en fait. Et c'est ça, l'évolution qui est intéressante, c'est-à-dire que oui, c'est un tueur d'élite, c'est un petit clin d'œil aussi au travail qui a été fait par Robert Rodriguez sur le Predators, mais effectivement, là où on a une absence de muscles, on a vitesse, on a technicité, et on a complexité, donc c'est intéressant, oui, voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir des gros bourrins musculeux, sinon on aurait fait un Predator avec The Rock. Je vois déjà les plus déviants d'entre vous. Oui, oui, on veut un Predator avec The Rock. Non, vous voulez pas ça. Donc, effectivement, il essaye de le dézinguer. Le Predator, parce que vous verrez qu'il y en a plusieurs. Voilà, spoiler alerte. Donc, celui-ci de Predator, celui qui est pourchassé par un membre de sa communauté, effectivement, il se fait la malle. Et Boyle Brook réussit à lui subtiliser, en fait, un peu de sa technologie. Donc, quelle est-elle ? Donc, c'est-à-dire son masque, plus cette espèce de manchette. Ouais, forcément, Predators, Robert Rodriguez, machete, moi je dis machette. Donc, sa manchette ultra perfectionnée. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est débile, parce qu'il faut quand même se le dire, mais je pense qu'il le sait dès le départ. Donc, c'est-à-dire que comme le personnage sait que, par rapport à ce qu'il a vu, c'est-à-dire, on est dans une pure rencontre du troisième type, hein, quelque part, il sait qu'il va être poursuivi par son gouvernement, donc, réflexion, le mec part à la frontière mexicaine, et il décide de faire emballer ça par un Mexicain, et de le faire envoyer à... On sait pas trop si c'est sa femme ou son ex-femme, voilà. Donc, il fait envoyer de la technologie alien... par la poste, hein, par FedEx, à sa concubine avec qui il est en froid, et surtout, c'est son gosse qui va le récupérer. C'est toujours une très bonne idée. Voilà, si vous êtes père ou mère de famille, faites ça. Voilà, si vous avez de la tech alien, et que vous voulez être pourchassé à la fois par la CIA, par le FBI, et aussi par des extraterrestres, envoyez ça chez votre ex-femme ou votre ex-conjoint, c'est toujours une bonne idée. Voilà, je vous dis, toujours une bonne idée. Sans avoir au préalable... penser, et ça c'est très bien, à avoir ingurgité une petite bille d'invisibilité avec un shot de whisky, quitte à le chier un peu plus tard dans le film, ce qui fera, hein. Donc il y a quand même des promesses, hein. On pourrait dire que c'est une façon maligne pour Shane Black de jouer sur cette notion du fusil de Tchekhov. Voilà, c'est comme si Tchekhov avalait son propre fusil et le chier un peu plus tard dans le film. Vous avez compris qu'on est dans du grand cinéma, voilà, et effectivement, alors film tronçonné un peu dans tous les sens, vous pourriez vous dire pourquoi il avale la bille d'invisibilité pourquoi ils la postent pas, mais surtout pourquoi ils l'avalent, en fait. Et effectivement, hors champ, il se fait arrêter. Enfin, il sent qu'il y a une présence. Ce qui est bien, quand même, dans le Blu-ray que j'ai, c'est qu'il y a quand même les scènes coupées. Et effectivement, il se fait arrêter. Ça aurait été bien de le laisser dans le montage. Mais pourquoi pas, voilà. Donc, effectivement, il avale une de ses billes. Il est cuisiné par le personnage de Trager, qui, lui, d'ailleurs, arrive en hélicoptère sur le thème du Predator. Déjà, t'as tout compris. Et déjà, t'as d'entrée de jeu, là, ça fait même pas 15 minutes que ça commence, c'est blindé de punchline. Voilà. Et le mec débarque en forêt, parce qu'il trouve le vaisseau, si vous suivez toujours. Hein. Alors, ne m'en veuillez pas. Quand je résume, ça part toujours dans tous les sens. Mais le film part lui aussi dans tous les sens. Donc il va falloir vraiment s'accrocher. Il va falloir vraiment s'accrocher à vos écouteurs, à votre enceinte ou au haut-parleur de votre bagnole pour me suivre dans ce résumé-là. Mais effectivement, donc voilà, ce vaisseau qui s'est écrasé, ben, c'est de la tech alien. Donc le personnage de Trager est à la tête d'un projet qui s'appelle le projet Stargazer, qui est la succession finalement du projet gouvernemental top secret mené par le personnage de Gary Busey dans Predator 2. Voilà, c'est la suite logique, hein. C'est pour ça qu'on retrouvera son propre fils à la ville comme à l'écran, voilà. Donc il débarque dans cette forêt et déjà il balance une punchline de malade. Donc c'est-à-dire qu'il dit à ses troupes, il dit que leur niquer leur mère, c'est leur idée du tourisme au Predator. Voilà, donc c'est-à-dire les mecs se déploient et il fait faites bien gaffe parce que niquer vos mères, c'est leur idée du tourisme. Voilà, c'est génial. C'est génial. Moi, je donne un Oscar directement. Et c'est ça, déjà, d'entrée de jeu, qui avait manqué dans les précédents opus. Les crossovers, ça a essayé, notamment dans le Alien vs Predator Requiem, de faire de la vanne, mais c'était flingué. Et le Predators de Robert Rodriguez se prenait au sérieux un peu trop pour son propre bien. Donc, effectivement, là, d'entrée de jeu, moi, je l'avais vu avec un de mes potes, d'ailleurs, au ciné. On s'était fait un petit apéro, on va dans la salle de Cinoche, film du samedi soir, voilà, t'en as, c'est vraiment un pur produit de vidéoclub que t'as dans la gueule, et voilà, et le mec est là, il mâche du chewing-gum à la nicotine, il bouffe l'écran, il arrive sur la musique de Predator, et il explique aux autres que les Predators sont là pour niquer leur mère, voilà, et c'est génial, voilà, rien que ça, c'est génial, et c'est les 15 premières minutes du film, voilà. Donc, on sait déjà qu'on est dans un film de Shane Black, et quoi que vous puissiez en dire sur le film qui a été charcuté ou que normalement il devait y avoir ci ou quoi, en l'état, c'est comme le rollerball de John McTiernan. Tu peux y couper une heure que de toute manière, chaque plan transpire l'œuvre de Shane Black. Donc voilà, au moins, tu sais que t'es pas face à une arnaque. Par contre, effectivement, on peut déjà le dire dès à présent, si tu t'attendais à la même viscéralité à, on va dire, quelque chose au-dessus du Predator de John McTiernan, ça n'arrivera pas. Voilà. Il faut plutôt voir ce film-là comme le Predator dans une histoire de Shane Black, que comme Shane Black qui fait une suite au Predator de John McTiernan. Effectivement, il faut le voir comme ça, et comme ça, vous ne serez pas déçus. Et honnêtement, moi, je vous ferai le classement à la fin, il n'est pas déshonorant. Voilà. Effectivement, si ton attente, c'est d'avoir un truc qui va plus loin que le Predator de John McTiernan, tu l'auras pas. Par contre, tu auras une autre proposition qui, pour moi, est valable et qui permet de se dédouaner de tout ce délire qui était film de groupe. On est dans une jungle, quelle qu'elle soit. Les uns sont décimés les uns après les autres par le Predator. Et là, en fait, non. Donc, il est plutôt malin parce que le plot de départ, c'est-à-dire que les personnages humains vont être chassés par différents types de prédateurs, non pas parce qu'ils sont venus les chasser, c'est parce que les prédateurs se chassent entre eux, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, les êtres humains se retrouvent au milieu d'un conflit. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu, quelque part, le scénario de Dark Angel avec Dolph Lundgren. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le Dark Angel de Dolph Lundgren, le film ne vaut que rien que par sa bande-annonce. Voilà. Donc, la bande-annonce VF, donc, pour rappel, Dark Angel, c'est quoi ? C'est deux dealers de l'espace, voilà, qui arrivent sur Terre, voilà, ils te pompent un truc au niveau de ton cerveau pour pouvoir le dealer, voilà, me demandez pas pourquoi, et j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas, hein, voilà, c'est pas plus con qu'un autre scénar, et ils se retrouvent aux prises avec Dolph Lundgren, qui lui, ben, il a décidé que ça se passerait pas comme ça, et dans la bande-annonce, ce qui est génial, c'est que t'as la voix-off, t'as vraiment la voix-off de l'époque qui fait « Dolph Lundgren !» Voilà. Et là, t'as l'alien qui fait « Je suis venu en paix ». Et là, t'as de nouveau la voix off qui fait « Dark Angel ». Et là, t'as un plan de Dolph Lundgren qui pointe en pompe face à l'écran et qui dit « Et tu vas nous la foutre, la paix ». Voilà. T'as vendu un film comme toi. Voilà. T'as un mec, il a un canoncier, il y a un dealer de l'espace, et l'autre, il pointe avec un canoncier et il lui dit « Tu vas nous la foutre, la paix ». Voilà. C'est génial. Voilà. Ben, c'est le même scénar que ce putain de The Predator, au final. Donc, là où on est plutôt bon sur ce film-là, c'est qu'il y a une volonté d'aller ailleurs et de développer une mythologie derrière les prédateurs. Donc, les Yoja, c'est quoi leur putain de mythologie ? Bon, apparemment, ils vivent quelque part, parce qu'on n'en sait pas plus. Hein. Alors oui, je sais que certains nerds et geeks vont dire « Oui, mais dans le comics... » Oui, d'accord, dans le comics, on s'en fout. Là, on parle de l'univers cinématographique en lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils arrivent avec un vaisseau. Voilà, ils ont une technologie avancée, donc ils doivent venir de quelque part. C'est tout ce qu'on sait. Donc, dans le premier, arrive avec un vaisseau, on a compris que selon, la Nicaraguaise hashtag brésilienne ou je sais pas quoi d'autre du coin qui dit « Oui, ils viennent pendant qu'il fait chaud », voilà, ça on a compris. Donc, voilà, El Diablo Cazador de Hombres, voilà, donc ils viennent chasser, voilà, c'est le diable qui chasse les hommes, voilà, ok, pour le plaisir, on sait ça. Voilà, on sait que, comme le dira un des personnages dans The Predator, c'est un alien Whoopi Goldberg, parce qu'il a des dreads, il a des mandibules, voilà, il y a un look, voilà, qui est là, on n'en sait pas plus. Dans le deuxième opus, on sait qu'il y en a plusieurs, et on voit dans le vaisseau, à la fin du deuxième opus, qu'il y a, un squelette d'alien, il y a plusieurs squelettes, il y a des trophées, donc ils ont été un petit peu partout, et surtout... Vous verrez, ça c'est un lien pour le cinquième opus, et à la fin, en récompense du taf exécuté par Danny Glover, il lui offre un flingue qui date de 1715, avec marqué Raphaël Adolini dessus. Voilà, il lui donne un flingue. Donc ça veut dire qu'ils viennent depuis de nombreuses années, des siècles. Voilà. Ok, donc ça, voilà. Ils sont plusieurs, ils ont des looks différents, ils visitent. Ça, c'est ce qu'on sait, mais on n'en sait pas plus. Dans le troisième, dans le Predators, on peut voir... qu'il y a des dissensions, qu'il y a des rites initiatiques, que cette planète des prédateurs, ça c'est l'ajout de Robert Rodriguez, qui ont une planète où ils s'entraînent, et qui font appel à des clébards prédateurs. Voilà, donc ils font, on va dire, ils font de la génétique, parce que j'ai pas trouvé l'expression globale, mais vous avez compris, ils font des expériences, voilà, c'est ça que je disais. Alors, ils font des expériences génétiques, et ils se développent leur propre clébard, voilà. Je trouvais que c'était le truc... Bon, les clébards... Je trouve pas que c'est débile, c'est pas non plus génial. Bon, bah c'est quelque chose que conservera Shane Black dans le quatrième opus. Et quel est le point de départ avec Fred Decker et Shane Black ? Mais c'est que c'est loin d'être con. C'est-à-dire que, habituellement, de ce qu'on peut voir des prédateurs, c'est-à-dire que quand ils chassent quelqu'un, un être humain ou autre, ils vont lui prendre la colonne vertébrale. Bon, j'imagine que ça doit piquer un petit peu. Donc, on pouvait croire que c'était un trophée. Et là, en fait, Shane Black et Fred Decker avancent l'idée que les prédateurs chassent, pour une raison précise, on va dire, les créatures les plus représentatives. Alors, pas représentatives, mais on va dire qu'ils vont chasser les espèces les plus belliqueuses. Donc, certains types de mercenaires humains, certains monstres, des aliens, pour pouvoir récolter leur ADN et se faire évoluer eux-mêmes génétiquement. D'où l'intérêt de prendre la colonne vertébrale. Fallait y réfléchir. Bon, en même temps, vous allez me dire, on leur a donné 88 millions de dollars. Oui, bon. Il y en a, on leur donne 300 millions de dollars, ça donne Fast and Furious 10. C'est-à-dire, le mec, il se pose derrière une table, il dit, bon, il a une bagnole, puis lui, il a une bagnole. Puis, à un moment donné, ça fait... Voilà, et puis, en fait, il a eu un enfant avec elle. Donc, on va l'enlever, il tombe, et l'autre, il reprend une voiture. Voilà, donc, voilà, et des fois, la voiture va dans l'espace, enfin, vous avez compris. Ça coûte 300 millions de dollars. Je trouve que pour 80 millions de dollars, les mecs se sont posés, se sont dit, bon, voilà. Effectivement... de prendre la colonne vertébrale, ça permet d'aller chercher dans la moelle épinière, en fait, voilà, la souche réelle d'ADN. Bon, après, moi, je suis pas spécialiste là-dedans, mais les scientifiques du film le disent, et je les crois. Donc, effectivement, ils prennent ce truc-là, ce qui explique aussi qu'il y ait des dissensions chez les prédateurs eux-mêmes, parce qu'ils se concurrencent entre eux. C'est pour ça qu'il y a un super prédateur à l'intérieur de ce The Predator, qui se fait éclater la gueule. Voilà, donc le prédateur de d'habitude, qui fait déjà plus de 2 mètres, se fait éclater la gueule par un Uber prédateur de plus de 3 mètres. Voilà. Et le machin, il a été dopé aux stéroïdes. J'ai envie de vous dire, c'est un peu l'équivalent d'un The Rock, le machin, voilà. Donc qui vient éclater, on va dire, l'acteur originel de la franchise. Voilà, tu vois, c'est The Rock qui éclate Vin Diesel dans Fast and Furious 5, à peu près, voilà. Donc effectivement, c'est loin d'être con. Voilà, l'idée de départ est loin d'être con. Donc une fois qu'on a compris ça, comment on est dans le pur film de Shane Black et pourquoi c'est assez jouissif de le revoir. C'est-à-dire que ils réfléchissent à tous les cas de figure, c'est-à-dire que quelqu'un qui a vu des extraterrestres, que ça soit aujourd'hui ou à l'époque, généralement on l'enferme. Et ben forcément, le personnage de McKenna se fait interroger et il est classé comme fou et on le met dans le bus des débiles. Et c'est là qu'à partir de là, Shane Black va reconstituer en forme de clin d'œil une espèce d'unité, voilà, une sorte de douce salopard débile, en hommage à la fois à Predator et à tous ces films d'action des années 80-90. Voilà, et c'est là qu'on va retrouver le mec qui a Gilles de la Tourette, donc on a le pilote d'hélicoptère, donc on a plein de clichés, on a quelques... Alors, ça reste des clichés, mais les acteurs se donnent du mal, et il y a du background, donc c'est ça qui est quand même assez cool là-dedans. Donc, forcément, tous ces débiles, voilà, deviennent copains comme cochons, et à un moment donné, le témoignage de McKenna, voilà, il est sollicité par le personnage, parce qu'il faut toujours un biologiste, et là, c'est une biologiste sexy, incarnée par Olivia Munn, et elle demande son témoignage pour confirmer quelque chose. Donc, ce petit van qui a les droits au HP fait demi-tour pour aller à la station, à la base secrète Stargazer, et là, ça part en couille. Donc, c'est-à-dire que là, un nouveau vaisseau rentre dans l'atmosphère, c'est le vaisseau du Super Predator, qui vient chercher le Predator qui a été capturé, parce qu'ils ont réussi à capturer, du coup, ce premier Predator, si vous suivez toujours, et tout ce petit monde se retrouve dans la base, et ça part en couille, et on constitue une équipe, et à partir de là, les joyeusetés peuvent commencer. Et on a droit, et ça vanne dans tous les sens, et encore une autre vanne qui est sympa, et qu'on doit toujours à notre méchant de service Traeger, c'est-à-dire que quand la biologiste débarque dans la base et qu'elle voit l'alien, voilà, et que l'autre lui explique en fait ce qu'il fait, elle fait oui, non, mais en fait vous dites prédateur, mais en fait ça serait plutôt chasseur sportif. Et là, t'as le mec qui regarde ses collègues qui fait ouais, mais nous on trouve que prédateur c'est plus cool, et t'entends les autres qui font un peu ouais, voilà, c'est débile, mais c'est génial. J'aurais pu écrire ce film, je pense. Voilà, donc effectivement, c'est génial, ça sert à rien, mais tu kiffes. Voilà, et c'est du pur plaisir. Donc oui, effectivement, les puristes façon, on va dire, geek Star Wars, qui vont te dire que le sable sur la planète Tatooine doit être comme ci, comme ça, vont te dire que gna 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 gna, on s'en branle, voilà, on s'en branle, voilà. On part dans une autre direction, c'est-à-dire que pour 80 millions de dollars, Shane Black t'offre un film comme t'en avais plus vu depuis les années 90. Effectivement, quand il fait ça en 2018, le public à qui il s'adresse ne répond pas présent parce que c'est anachronique. Voilà, le public n'était pas là pour ce genre de film. Effectivement, il aurait peut-être fallu attendre la post-pandémie que des bourrinos à la Tyler Rake, voilà, comme alors les deux frères, là, j'ai perdu leur nom, là, ceux qui sont derrière les Avengers et qui écrivent des scénarios sur un coin de table. Donc effectivement, il aurait fallu attendre ça et peut-être proposer le truc à Netflix. Voilà, et peut-être que ça aurait marché. En l'état, c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule. Voilà, si vous voulez une réponse à ce truc-là, dire moi j'étais bien content, et je pense qu'on devait être une dizaine à être content, voilà, par région, voilà, notamment en France. Donc effectivement, on t'offre ça, et c'est un pur plaisir. De toute façon, je vais faire un petit comparatif sans spoiler la suite sur ma chronique de près. Le film fait un peu moins de 2 heures, pas une seule seconde, je regarde ma montre ou je m'emmerde. Prêt, il a le tour de force de faire, générique compris, moins d'1h40. le premier tiers à la revoyure, hein, parce qu'il a fallu que je revoie ce truc-là. Hein, pour, voilà, parce que je sais que voilà, je fais une petite dédicace, un de mes auditeurs m'a posé la question, il me dit « Ouais, mais toi, tu regardes vraiment les films à chaque fois, tu les revois pour les chroniquer. » Ah ouais, ouais, moi, je fais ça bien. Hein. C'est-à-dire que demain, si je m'attaque à la bouse Avatar 2, va falloir que je me tape les 3h30 de ce machin. Va falloir que je le regarde, ce truc. Voilà, parce que peut-être que je serais tellement taré qu'il y aurait une version longue et je voudrais chroniquer la version longue et m'infliger l'enfer sur Terre. Mais bref, parenthèse refermée. Donc effectivement, tu te fais pas chier, alors que l'autre, là, putain, il dure quasiment 1h30, là, et tu t'observes toi-même en train de regarder le film, quoi, c'est à peu près ça l'idée. Donc, effectivement, c'est un pur plaisir régressif. Honnêtement, les effets spéciaux, ils défoncent, t'en as pour ton argent, les 88 millions de dollars, tu les vois à l'écran, t'as de la vanne, les personnages sont bien écrits, il y a cette volonté aussi que, même si tu sais qu'ils vont clamser que c'est de la char à canon, bah ça te fait un petit truc, voilà. Film de Shane Black oblige, ça se passe souvent entre, vers la fin de l'année, proche de Noël, donc là c'est la période d'Halloween, donc c'est bien aussi d'estampiller ça à une temporalité, donc ça c'est toujours les films de Shane Black, à ce moment-là, il y a un gosse, comme d'ailleurs Iron Man 3, mais le gosse est pas tête à claque, voilà, donc puis c'est plutôt bien exploité, tu vois que c'est quand même un film de daron aussi, parce que le personnage principal, t'as compris qu'il est à deux doigts du divorce, et voilà, t'as plein de sous-intrigues comme ça, et que quand, pour vous donner un truc, bon, tu sais qu'il y a plein de petits détails comme ça, où c'est génial, c'est-à-dire que t'as toute l'équipe qui débarque chez la meuf du personnage principal, et tu vois qu'elle, son hobby, c'est de peindre des nus féminins, et t'as un gars qui regarde la toile, et il a rien à voir, donc la meuf, elle voit débarquer 12 gars, une dizaine de gars complètement débiles, il y a des histoires d'aliens, il y a des histoires de gouvernement, et t'as un gars qui fait qu'est-ce qu'elle fait la femme avec la main sur son sexe à l'endroit, c'est tout qui a rien à voir en fait, c'est génial. T'as aussi un autre moment fou où t'as la biologiste en chef qui essaye de courir après le prédateur en disant « c'est mon animal de l'espace ». Ça, c'est génial. Voilà. À elle, elle le veut, voilà, comme une gonzesse qui te court après. Et elle a un pistolet tranquillisant, donc elle le loupe, elle se tire dans le pied. Du coup, elle s'endort. Du coup, les mercenaires la récupèrent et la mettent dans une chambre d'hôtel. Et t'as un moment complètement taré où ils sont tous là à l'observer et ils lui posent des petits trucs pour que quand elle se réveille, elle prenne pas peur. Donc elle a une tasse à café, il y en a un, il lui a fait une licorne en papier, machin. Mais c'est complètement taré. Et c'est génial. Et c'est génial. Et ils font même des paris sur le fait que quand elle se réveille, elle va prendre le flingue. Donc tu vois, ils s'échangent de l'argent comme ça. Putain, je t'avais dit qu'elle prendrait le flingue et tout. Et là, t'as le personnage principal qui la regarde et qui dit bah, si vous voulez partir, machin, ça va se passer comme ça. Et elle appuie sur la détente. Et t'as les autres qui font oh putain, je t'avais dit qu'elle appuie, qu'on avait bien fait de décharger, qu'elle appuierait là-dessus. C'est génial. Et ça, c'est du vrai travail de scénariste. Effectivement, c'est le travail de Shane Black. Ça peut court-circuiter ce que t'attendais de Predator. Mais là, c'est bienvenu parce que du coup, les moments d'à côté sont aussi géniaux que les moments où il y a le Predator, en fait. Voilà. Donc, ça se castagne sévère. C'est génial, et il y a plein de rebondissements, ça, c'est moins con que ça en a l'air, hein. Donc, dans le dernier tiers, voilà, du film, où ça se complexifie, donc il y a un des prédateurs qui s'est fait défoncer par le super prédateur, le super prédateur, pour une fois, on trouve le moyen dans le scénario qu'on comprenne ce qu'il raconte, donc voilà, et qui dit qu'il va tous les fumer, qu'il leur laisse de l'avance, en fait. Et du coup, t'as les bad guys du gouvernement qui sont obligés de faire ami-ami, donc voilà, t'as vraiment le côté anti-héros, ça travaille à tous les niveaux, et t'as même le personnage McKenna qui regarde Trager, qui dit, une fois qu'on aura fini ce truc-là, toi et moi, on va se la régler à l'ancienne, en fait. Voilà. Et l'autre, il dit, ouais, t'inquiète. Voilà. Donc du coup, t'as tout ce taf-là, et c'est génial, et ça marche super bien, t'en as pour ton blé, visuellement, ça claque, les effets spéciaux sont, voilà, le travail est super bien fait, tu peux pas dire, putain, tel CGI, il est moisi, etc., c'est nickel, c'est plutôt bien filmé, alors, t'as pas non plus du travelling transversal dans tous les sens, faut pas exagérer, Shane Black, c'est pas ça, mais tu sens que le mec, depuis Iron Man 3, il sait gérer de la seconde équipe, il sait gérer du cinéma d'action, donc ça a de la gueule, c'est bien éclairé, c'est bien cadré, ça tente des trucs, avec de la contre-plongée sur les personnages, etc., ça, voilà, ça le fait, et putain, tu te fais pas chier, et même si le film a été remonté dans tous les sens, parce que on va dire que dans le dernier tiers, les 5 dernières minutes ou les dernières minutes, c'est surtout ce passage-là qui a été remanié. Alors, moi, je vais juger le film en l'état. Tout le monde a dit, oui, cette espèce de finale, il est complètement con. Ben non. Je suis désolé, en quoi c'est con? Est-ce que c'est plus con je sais pas moi, des bandes de personnages qui t'expliquent que ils vont se miniaturiser, aller dans le domaine quantique, et que comme ça, ils vont remonter le temps? C'est ça, ce que je viens de vous résumer, c'est pas complètement con? Ça a fait des milliards au box-office. Hein. Est-ce que c'est ce final, c'est aussi plus con que... Oui, tu comprends, en fait, ils chassent les baleines, parce qu'à l'intérieur de leur cerveau, il y a une substance qui donne la vie éternelle. Ça, c'est dans Avatar 2, ça sort de nulle part. Et c'est-à-dire, ça arrive comme ça. Hein. C'était pas dans le premier Avatar, ça arrive comme ça. Voilà, ça donne la vie éternelle. À quoi ça sert de savoir ça? On sait pas. Donc, les aficionados me diront, oui, mais effectivement, ça va être exploité dans Avatar 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je me doute bien, mais c'est complètement con. Voilà, c'est... Voilà, mais je pense que je le ferai. Voilà. Cher auditeur, tu sais que je m'adresse à toi? Je pense que je le ferai. Le karma, l'univers, et je pense que ce putain d'enfoiré de James Cameron le veut, parce que jusqu'à présent, je l'adorais, James Cameron. Bon, alors là, entre Alita Battle Angel, Terminator Dark Fate, bordel, le mec, il signe le scénar, que le T-800, il a une entreprise de moquette et il fait des barbecues. Voilà, ça, plus Avatar 2, mon ami, c'est une baleine, et tout le reste, je pense que là, faut que je m'y colle et que je le fasse proprement. Et quand je fais les choses proprement, moi, j'achète le Blu-ray, tu vois, parce que moi, je crache sur l'objet existant de visu. Donc, je le ferai. Donc, effectivement, le final, quel est-il, ce final? C'est-à-dire que le Predator, le premier, était venu sur Terre. Bon, ce qui est complètement con, il est venu sur Terre, hein, si vous suivez toujours le premier Predator, donner quelque chose à l'humanité. Donc, ce qui est plutôt, on va dire, friendly, en fait, hein, quelque part, hein, voilà. Sauf que ça marche pas, parce que si tu réfléchis bien, quand il arrive sur Terre, dès les 5 premières minutes, il désingue tout le monde, les narcotrafiquants, les mercenaires. Donc, on le sait que c'était pas ça qu'il était venu amener, mais pourquoi pas? Donc voilà, il est venu sur Terre amener ce qu'on découvrira être une armure de malade mental appelée le tueur de prédateurs. Voilà. Et donc, t'as ce plan complètement taré. Où t'as un mec qui ouvre le truc, il met l'espèce de gantelette comme ça, et ça devient une espèce de truc, espèce de prédateur avec armure, avec un million de trucs. Ça, c'est génial. C'est une pure idée de comic book. Effectivement, c'était pas l'idée originelle, ça le voit. Bah, pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous dire. C'est sûr que le prédateur, il vient pas sur Terre en désinguer tout le monde et dire « Ah, au fait, c'est votre anniversaire, je vous ai acheté un cadeau, mais j'ai tué tout le monde. » Non, ça marche pas. Eh oui, non, ça marche pas. Donc, mais pour une magouille de la prod... pour aller travailler, pour un truc fait en cours de route, ouais, c'est... Non, franchement, mais moi, ça, c'est mon côté déviant. Moi, j'ai envie de le voir, ce truc. Voilà, et tu vois, ça finit sur un plan où t'as tout le monde qui est là. Putain, c'est une armure de malade, mais qui... qu'est-ce qu'on va en faire? Et t'as l'autre qui regarde, voilà, t'as Boyle Book qui dit, ça, c'est ma nouvelle armure. Voilà, et tu sens que le mec, il a envie d'aller désinguer du Predator sur la propre planète des Predators. Moi, j'ai envie de le voir, ce truc. Je crois que même Papacito, pour citer un autre, et citons la grandeur, a envie de voir ce truc-là. Lui qui adore le truc des cérébrés des années 80. Donc, effectivement, t'en as pour ton argent. Voilà. Je vais pas vous mentir. Moi, je prends un pied maximum à regarder ce truc-là. Si tu considères que c'est pas censé égaler le Predator de McTiernan. Donc, on va dire que techniquement, dans l'esprit lui-même, ouais, ça défonce ce qu'a proposé Robert Rodriguez, qui était un espèce de truc un peu en demi-molle, quoi. Enfin, tu vois, tu sais, c'est jamais très très dur, c'est jamais très très mou. Voilà, je vous explique un peu ce que c'est la demi-molle cinématographique. Donc, ça démarre réellement jamais, et c'est pas non plus mauvais. Donc voilà, c'est un entre-deux. Bah, c'est un peu les prod Netflix actuels. Hein, tu vois, c'est ni bien ni pas bien. Voilà, c'est un moment qui se passe. Voilà, qui te permet de, on va dire, de constater que le temps, bah, ça passe, voilà, ça défile. Donc, 88 millions de dollars de budget, box-office 160 millions, voilà. Alors, c'est pas le four annoncé, hein. c'est pas une gifle, hein. Il y en a des gifles, hein. Je vous en donnais, hein. On parlait de Robert Rodriguez, qui a fait Sin City 2, de mémoire, hein. Le budget de Sin City 2, c'est 60 millions de dollars, le truc, il en rapporte 8, voilà, ça, c'est une claque dans ta bouche, voilà, donc là, 88 millions de dollars, tu prends le budget qui est jamais de communiqué, parce que les gens aiment bien dire, voilà, c'est toujours le double, le budget de toute la promo, etc. Bon, n'exagérons rien, c'est jamais le double, mais on va dire que sur 88, on va dire que le truc, il a dû coûter, 120 millions de dollars, il en rapporte 160, ils font une petite plus-value, ça a dû, voilà, c'est pas ouf, c'est pas déshonorant. Voilà, et ça fait une ouverture à 22 millions de dollars le jour de son week-end. Donc voilà, effectivement, les gens n'ont pas envie de voir ça. Et c'est dommage, hein. Et ce cas de figure, c'était peut-être déjà annonciateur d'une certaine idée du cinéma qui tend à disparaître. C'est ce que je vous avais dit, Matrix Resurrection, c'est un four parce que les gens n'ont pas envie de voir ça, et il y a toujours une antithèse à côté. Donc comme j'avais expliqué, Matrix Resurrection, à côté t'as Spider-Man là, le troisième là, No Way Home je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est ni fait ni à faire, voilà, qui est un film d'algorithme que les gens ont envie de voir parce que c'est lolilol, parce qu'il y a un peu tout le monde, voilà, c'est de la merde, voilà. Donc mais le Matrix Resurrection, il y a une vraie envie, voilà, de te divertir, de te faire un film. Et ben non, les gens veulent pas voir ça. Pareil, hein, Avatar 2, c'est génial, c'est éco-responsable, ça parle de l'eau. Non mais oui, je sais que je suis en train de le dézinguer sans le chroniquer. Non mais attends, mais c'est quoi le foutage de gueule en fait? C'est-à-dire que on est en train de dire qu'Avatar 2 c'est super écolo, avec ça, bon, il faut pas tuer les baleines, tout ça. Le film il est fait en full CGI, en coussant mot du CO2 dans tous les sens, avec des pipelines de post-prod de malade mental. Il n'y a pas plus anti-écolo que ce film là. Voilà, je veux dire, ça aurait été écolo de filmer la plage à la rigueur, dans ce cas là, pour le coup. Donc voilà, donc c'est complètement con, voilà, mais bon, à ce moment-là, t'as Babylone de Chazelle qui sort, et ben voilà, c'est un four, personne n'a envie de voir ce film-là. Et à chaque fois, il y a des trucs comme ça, il y a toujours la thèse et l'antithèse, en ce moment, c'est ce qui se produit à chaque fois. T'as un film qui sort, ben regardez, alors, même si ça reste quand même, on va dire entre guillemets, un succès, Oppenheimer, en face, il y a Barbie. Voilà, le succès, de, alors on va y dire, hein, voilà, je vous fais un petit point, j'en profite sur cette troisième partie, parce que ça fait un petit moment, hein, que j'avais pas fait un épisode long, vous allez me dire, oui mais ta dernière vérif qui est censée être les versions courtes, elle fait 1h30, donc c'est quand même un épisode long, on est d'accord. Mais effectivement, si on fait le point, voilà, moi je vais vous faire le point du public et de ce qui est plébiscité par le public du cinéma en 2023, on n'a pas fini l'année, hein, voilà. Super Mario Bros et Barbie, mais allez bien tous mourir, hein, voilà, Barbie. Barbie, vous allez voir, ça va être un succès, ça l'est déjà, stratosphérique. Voilà, ça va être ça. Voilà, Spider-Man No Way Home, Barbie, Super Mario Bros, c'est génial. Voilà, félicitations, bravo. Voilà l'avenir du cinéma. Et Oppenheimer, même si ça marche, voilà, ça fait pas des scores stratosphériques. Ça marche. Comme habituellement chez Nolan. Bon, Tenet avait pris une gifle parce que bon, il était sorti pendant une période qui n'était pas idéale et était trop compliqué pour le public à qui s'adresser. Ça, je veux bien l'admettre. Mais effectivement, voilà c'est ça l'état du cinéma. Donc, écoutez, moi, je préfère 100 fois voir The Predator que regarder 0,25 de Barbie, c'est-à-dire le premier tiers, si vous suivez toujours. Donc, c'est un bide. Enfin, c'est un bide. C'est, voilà, ça rapporte pas beaucoup de thunes. Donc, les projets de suite et tout ce qu'il y avait de prévu, eh ben, ça dégage. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que ça a été remonté, et ça, c'est dû au studio, hein, les grandes histoires, hein, de charcutage et de remontage par les studios des films cinéma, donc notamment le Blade Runner de Ridley Scott, hein, le Blade Runner de Ridley Scott, ce qui est bien, c'est qu'il existe en de multiples versions. Alors, tu sais même pas laquelle il faut regarder, tu sais, t'as la version producteur, la version réalisateur, la version director's cut, le final cut aussi, des fois il y a une licorne, il n'y a pas une licorne, ça dépend de comment, de quelle est l'humeur de Ridley Scott, en fait, des fois, Harrison Ford, c'est un répliquant, ça l'est pas, on sait pas, voilà. Donc, mais effectivement, ça a été une mauvaise expérience pour Shane Black. En même temps, et j'avais envie de vous dire, quelque part, moi, ce qui m'a étonné, bon, ce qui est bien, hein, Shane Black, j'ai envie de vous dire, c'est un bon pote, hein, il fait travailler les amis. Parce que moi, Fred Decker, je pensais qu'il était mort, le mec. Hein. Tu vois, quand t'as fait Robocop 3 et que t'as fait ces films-là dans les 90, et que tu vois que ça a été une gifle, le mec, il est absent, je pensais qu'il était mort. Donc, ce qui est bien avec Shane Black, c'est qu'il nous l'a ressuscité et il lui a donné du pognon. Manque de peau, et ben, je pense que c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça. Peut-être été le chat noir de Shane Black. Parce que, bizarrement, Fred Decker, il n'a pas fait le scénario d'Iron Man 3, ni des autres films de Shane Black qui ont marché. Et le seul qui s'est pris un gadin, c'est celui-là. Donc j'ai envie de te dire, Shane, if you listen to me, faut plus embaucher Fred, hein. Il est cool, mais paye-lui un burger et une bière, mais le fais pas travailler sur ton scénar. Donc à tel point qu'on n'a plus de nouvelles du Shane. Hein. Moi j'ai été chercher un petit peu, voir s'il y avait de l'actu. Putain, il n'y a rien. Depuis 2018, voilà, le mec, ça l'a calmé à vie, quoi. J'espère qu'il refera un film. Mais à mon avis, il ne touchera plus à la SF. C'est dommage, parce que c'était, on va dire, une bonne entrée en matière et une bonne alternative au film de John McTiernan. Donc, on en vient à se demander, eh ben, comment la saga Predator va se relever de cet échec, qui n'est pas un échec cuisant, mais qui est quand même un échec, et comment ça va repartir ? Eh ben, de manière complètement fortuite, donc par le biais d'une plateforme de streaming, c'est pour vous donner le niveau d'ambition, et par quelque chose, putain, que n'aurait pas renié Ridley Scott, hein, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un film de la saga Predator, c'est ni un préquel, mais ça se passe avant, quand même du Predator à l'intérieur, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, ça aurait pu s'appeler Predatorus, voilà. Non, ça s'appellera Prey, voilà, ou Prey en bon français qui prononce de l'anglais. Et vous voulez qu'on se marre? Voilà, pour vous donner le niveau. Donc là, dans les notes que je prends, au niveau du casting, au niveau des informations de budget, etc., tout ça, The Predator, ça fait une page recto verso. Eh ben, Prey, figurez-vous que ça fait une demi-page. C'est pour vous donner le truc, hein, à peu près. Bon, alors, déjà, quelle est l'origine de ce gloobie-boulga ? Donc, alors, pourquoi déjà ça se retrouve sur une plateforme de streaming, et notamment chez Disney+. C'est que la Fox, voilà, entre 2018 et aujourd'hui, elle a été bouffée par Monsieur Grandes Oreilles, c'est-à-dire Mickey. Voilà. Ouais, il a bouffé. Donc, ça s'appelle plus la 20th Century Fox, mais maintenant, ça s'appelle la 20th Century Studio. Pas la même cam. Ça en a le goût, ça en a l'odeur, mais il manque un peu d'assaisonnement. Donc, c'est pas pareil. Donc, Disney a bouffé le catalogue de la Fox. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, Disney est maître du monde. Donc, c'est-à-dire que Disney possède Marvel, Disney possède Star Wars, Disney possède Indiana Jones. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas parce qu'ils les possèdent qu'ils font des choses bien avec. On est d'accord. Et maintenant, Disney possède les franchises Alien, les franchises Predator et tout le catalogue de la Fox. Ils ont tout ça, en fait. Voilà. Donc, quelque part, c'est vrai que ils ont matière à pouvoir relancer dans une autre direction, ou du moins retravailler le matériau de base, en fait. Et ça, de toute façon, c'est symptomatique. C'est pour ça qu'on fera un comparatif entre l'avant-Covid et l'après-Covid. C'est qu'aujourd'hui, le cinéma, malheureusement, est une affaire de plateforme. Voilà. Ce qui va sortir en salle, et j'ai envie de vous dire, on se retrouve, si on devait faire un comparatif, c'est un petit peu, si on était aux États-Unis, qu'on avait le choix entre aller voir un film au drive-in avec sa copine, voilà, ou rester à la maison et regarder la télévision. Et ben c'est ça, en fait, aujourd'hui, voilà, le cinéma. Donc, c'est-à-dire que sera au cinéma des grosses baudruches, voilà, boursouflées. Donc, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, quitte à avoir le siège qui vibre, ben, je préférais avoir un drive-in, comme ça, au moins, je peux fumer des clopes, et je regarde la même merde, et si j'ai envie de faire bouger mon siège, ben, je mets un coup de moteur et je fais un marche avant, marche arrière. Je vous lance l'idée, si y a des exploitants qui m'écoutent, je prends 10% des recettes et je copyright l'idée. Mais voilà, donc, à la rigueur, voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est un cinéma de petites lucarnes, de petits bras, voilà, parce qu'osons le dire, de petits bras, pour de l'algorithme, pour nourrir, en fait, les plateformes. Pour qu'il y ait un... Donc voilà l'intérêt aussi de Disney de racheter les catalogues. C'est parce que tout le monde a dit « Oui, Disney+, c'est flingué, parce qu'il n'y a pas de contenu original. » Mais ils s'en branlent chez Disney, ils achètent tout. Et du moment où ils achètent tout, et ton contenu, il est là, en fait. Hein. Voilà, donc ils possèdent tout, et c'est comme ça qu'ils ont pu concurrencer d'entrée de jeu Netflix. Ce que n'a pas réussi à faire. Alors, Prime Video arrive un peu à le faire. Je fais un point sur les plateformes. Moi, Prime Video, c'est mon vidéoclub d'aujourd'hui. Tu trouves tout, n'importe quoi. C'est-à-dire, tu peux y trouver un vieil American Ninja, un Sharknado, et côtoyer la dernière prod et le dernier match de foot. C'est à l'image, au final, Prime Video, c'est à l'image de ce qu'est Amazon Prime pour commander des trucs. Il y a tout n'importe quoi. Tu peux commander sur ton appli Prime. Alors, j'ai pas dit que je commandais ça, mais c'est l'analogie. Tu peux commander un Godmiché, comme un Blu-ray, comme un livre. Tu peux tout commander, en fait. Tu peux même faire tes courses. Aujourd'hui, c'est ça. Et ça, je l'avais déjà dit dans un épisode. Moi, ma mère, elle comprend pas ce que c'est Prime. Elle sait pas. Prime, j'ai commandé un truc. Regardez, ils savent pas, les gens, en fait. Mais même Jeff Bezos, je pense qu'il sait même pas ce que c'est Prime, en fait. Voilà, c'est son truc. Et son truc, c'est, j'ai envie de vous dire, Prime, c'est le monde, en fait. C'est vous et moi, en même temps. Peut-être qu'on se retrouvera, on commande sur Prime un jour, c'est fort possible. Donc, effectivement, aujourd'hui, la Disney possède la Fox, ça s'appelle la 20th Century Studio, et il relance la franchise, mais très rapidement. Hein. C'est-à-dire que l'idée de cette espèce de simili-reboot préquel, on sait pas trop, voilà, truc qui serait un Predator, mais pas trop, ils en ont l'idée pendant déjà la prod, donc pas la pré-prod, hein, mais la prod, le tournage, du The Predator de Shane Black. Donc autant vous dire qu'à mon avis, voilà, parce que si on relit un petit peu les infos, alors j'ai pas la date en tête, mais je pense fortement... que ces idées de rachat et de les rats quittent le navire au niveau de la Fox, c'est fait pendant la production de The Predator, et que ceux et celles qui ont mis leur nez dans la prod de Shane Black, qui serait une prod de daron, c'est les responsables du cahier des charges de la bien-pensance Disney. Voilà, ceci expliquant cela. Voilà, donc... À mon avis, si on devait trouver... Regardez, moi, j'ai trouvé une histoire pour raconter pourquoi Thomas Jane n'y fait plus de films. Voilà. Moi, peut-être que j'ai trouvé la solution de pourquoi The Predator a été charcuté et tronqué comme ça. C'est possible. Cette volonté de faire des franchises, concurrencer les films de super-héros, etc. Il y a peut-être cette volonté-là. Effectivement. Donc, il y a cette idée-là en parallèle. Et ça deviendra, parce qu'ils communiqueront officiellement au cours de l'année 2019, donc très rapidement, année 2020, 2019, 2020, ils vont commencer à communiquer que ce film qui s'appelle Skulls est en fait prêt et va s'installer comme une sorte de préquel de la saga Predator. Bon, très bien. Alors, prêt, c'est quoi ? Au lieu de pas s'appeler Predator. Donc voilà. Donc déjà, c'est peut-être la meilleure idée du film. Mais alors, film qui est pas mauvais, attention, hein, vous me sentez un petit peu médisant. Et c'est pas mauvais, c'est quand même pas génial non plus. Voilà, donc prêt, déjà, pour vous dire une chose, parce que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est sorti, c'est pour ça que j'avais annoncé ce démarrage de la saga Predator, hein, que j'avais fait l'été dernier, donc c'est sorti en août 2022, sur la plateforme américaine UU, et sur Disney+, ici même, voilà, donc c'est un pur produit Disney, c'est sorti de manière numérique en 2022, et ça dure 1h40. Alors, ce qui est bien, on va le dire dès à présent, avec toutes les prods de plateforme, c'est qu'on ne connaît ni le budget, et on ne sait pas si les gens l'ont regardé, et on ne sait pas comment ça rapporte de l'argent, ce machin. Donc, le business model des plateformes, c'est les abonnements. J'ai un fort doute qu'il y ait eu un gain de millions d'abonnés, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Prey, qui était un espèce de préquel de Predator. J'y crois pas une seule seconde. Voilà. Il n'y a que 10 pauvres gars, 10 pauvres redneck du Kentucky qui a dû se dire « Hey Joe, regarde, il y a un nouveau Predator, ça va être génial !» Voilà, vous voyez le truc un peu à la Homer Simpson, là, un peu, voilà. Je vois à peu près une scène comme ça, mais c'est tout. Voilà. Et bien entendu, des couillons comme moi, pour savoir dans quelle direction ça va, et le chroniquer par la suite, parce que c'est 1%, nous ici on fait le taf. Voilà. Donc on ne sait pas combien ça a coûté. Alors moi, je peux vous évaluer le budget. Voilà. Je vous avais déjà expliqué que moi, dans mes activités, je bosse en prod audiovisuel. Donc, ça a le goût et l'odeur d'un truc à 50 millions de dollars actuels. Ni plus ni moins. Donc, on va dire qu'ils ont divisé par deux le budget précédent. Ça, franchement, ça coûte pas plus que ça. Voilà. Si ça coûte plus cher que ça, franchement, il y a une arnaque. Hein. Donc, effectivement... On connaît ni le budget, ni combien ça rapporte, mais comme toujours, quand ça sort, c'est un film qui a été beaucoup regardé, des millions de fois. Regardé du début à la fin, plébiscité, est-ce qu'il y a des likes, on sait pas. Voilà. C'est réalisé par un mec qui a rien fait. C'est important, ça, aussi, d'être réalisé par un mec qui a rien fait. Donc, avec un nom à la con, je pense que ça devrait être récurrent, ça. Je pense que nom à la con égale un succès, ou il devrait y avoir une théorie comme ça. Dan Trachtenberg. Voilà. Alors, Dan Trachtenberg, il a comme fait d'arme d'avoir fait des épisodes de Black Mirror, un seul, quelques épisodes de The Boys, et un film plutôt... un peu con, mais rigolo, qui est 10 Cloverfield Lane. Voilà. Qui est... le Cloverfield Universe de J.J. Abrams, ça c'était génial aussi, hein. Rappelez-vous ce film, hein. Donc on va faire un film avec un monstre géant qui s'appelle Cloverfield, puis on va faire des suites qui sont dans le même univers, mais on sait pas trop, voilà, c'est un peu ça Cloverfield Lane, voilà, donc je l'ai, par curiosité, je l'avais acheté en Blu-ray, je l'ai regardé, je l'ai trouvé cool une fois, mais je crois que je le regarderai jamais, une deuxième fois, mais bon, c'est bien de l'avoir, donc voilà, donc Dan Trachtenberg, c'est un honnête artisan. Bon, vous avez compris que c'est pas lui qui a coûté le plus cher au niveau du budget. Voilà, donc on a été chercher. De toute façon, voilà, hein, politique de plateforme oblige, tu vas chercher, parce que 10 Cloverfield Lane, bon, même si c'est sorti au cinéma, il me semble de mémoire, c'est un DTV, quoi. Enfin, voilà, c'est un DTV, le machin. Donc t'as un réalisateur DTV, comme Alan Taylor, tu vois, quand il fait Thor 2, le mec qui vient de la télé, c'est un réalisateur DTV. D'ailleurs, Thor 2 est un DTV, voilà, je tiens à le dire. Bon. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes sur le film. C'est fou, hein. Donc après, tout le reste sera de l'impro, hein, bien entendu. Donc, c'est un préquel. Et alors, vous allez vous dire, mais quelle idée ils ont été chercher comme préquel ? Ah ben, il n'y en a pas 36, hein. Voilà. Donc, tout le monde a retenu, dans les années 90, dans Predator 2, qu'à la fin, Danny Glover, on lui donne un pistolet où il y a marqué Raphaël Adoini 1715. Eh ben, voilà. Le film se passera, parce qu'on est plus malin, hein. Il va pas se passer en 1715, il va se passer en 1719. Mais voilà, le point de départ de ce truc-là, c'est de raconter quasiment l'histoire du pistolet, en fait. Et c'est génial. C'est aussi con que ce qu'a fait Ridley Scott en disant « Vous savez le vaisseau qu'il y a dans Alien ? » Eh ben, on va raconter l'histoire de cette race extraterrestre qu'il y a dans le vaisseau. Ben non, pourquoi faire ça ? C'est bien des fois de laisser le mystère, on n'est pas obligé de tout raconter en fait, tu vois. T'as un moment donné dans un film, prenons un exemple à la con, t'as un mec qui glisse en arrière-plan, je sais pas, sur une peau de banane. Est-ce qu'on est obligé de raconter l'histoire de la peau de banane, de comment elle est arrivée sur le trottoir ? Tout le monde s'en branle, voilà. Donc effectivement, ils sont tellement bloqués à un moment donné qu'ils en sont là. C'est-à-dire, on va raconter l'histoire du pistolet. Et tout le monde, on dit, ouais, putain, c'est... Oh là là, c'est charmé comme idée. Ah ouais, c'est une idée de merde, hein. Enfin, voilà. Donc, j'ai envie de dire, Rodriguez, il a pas eu une meilleure idée. Au moins, Rodriguez, il avait cette idée de maligne de dire, on reprend la jungle, c'est une autre planète, tadana, mais c'est pas la planète Terre, hein, c'est une planète extraterrestre, où c'est la jungle, et on y met des gens dedans. Bah, c'était malin. Hein. Celle de Shane Black, là, sur ce que je vous ai raconté tout à l'heure, là, sur les différentes espèces qui s'hybrident entre prédateurs et qui prélèvent des trucs sur la colonne vertébrale, avec même ce truc un peu flingué, mais qui est quand même bien, de chasseur de prédateurs, c'est toujours mieux que de raconter l'histoire du pistolet. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, moi, qui suis-je ? Pauvre petit podcasteur français, qui suis-je ? Mais croyez-moi bien que pour 50 millions de dollars, je vous raconterai un truc qui sera plus proche de Shane Black et John McTiernan que cette espèce de truc en céphalogramme plat sur un pistolet. Mais allons-y. Voilà. Donc, ce film prend lieu en 1719. Alors, le contexte est plutôt intéressant. Le contexte est plutôt intéressant parce que c'est l'époque de la colonisation de l'Amérique du Nord, ce n'est pas encore les États-Unis, c'est l'époque des 13 colonies, et ça prend place pendant que les Français, les Anglais et l'Espagne se divisent le pays et se défoncent la gueule. Donc on n'est pas très loin du dernier des Mohicans, hein, c'est un petit peu avant, on n'est pas très loin du dernier des Mohicans de Michael Mann, et ça permet aussi de mettre en avant... on va dire politiquement, l'extermination des Indiens d'Amérique. Et là, les personnages principaux ne sont ni les Français, ni les Anglais, ni l'Espagne. Je sais, c'est pas une mauvaise blague. Hein. On a l'impression que c'est une mauvaise blague. Hein. Mais, alors tu vois, c'est un film Predator, c'est l'histoire d'un Français qui rencontre un Anglais. Franchement, pour 50 millions de dollars, celui-là, je vous le tourne, et c'est génial. Donc, Donc ça prend, on va dire, le point de vue d'une tribu Comanche. Et pour une putain de fois, parce que je vais souligner les qualités, pour jouer des Comanches, eh ben vous savez quoi? Ils prennent des descendants de ces tribus-là. Eh oui, ils prennent des Amérindiens. C'est beau, hein? Ben, ça fait plaisir. À l'heure où tu t'es tapé des films qui se tournent au Moyen-Orient, où c'est des Hispaniques qui jouent les Arabes. Ouais, le 13e guerrier. Ouais, le 13e guerrier. C'est Antonio Banderas dans le rôle d'un guerrier arabe. C'est génial. Mais ben oui, prenons un Espagnol. Voilà, c'est logique. Ou Omar Sharif aussi. Voilà. Donc là, pour une fois, on prend des descendants de ces communautés pour incarner ces communautés. Là, j'ai envie de vous dire, quitte à faire de l'inclusivité, voilà, là on est bon. Et d'ailleurs, ça, c'est même pas de l'inclusivité, ça devrait être logique. Voilà. Moi, il me semble que, en même temps, on peut retomber aussi sur le côté de James Cameron, hein, qui finalement prend des acteurs pour jouer tout et n'importe quoi en image de synthèse. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il connaît pas des navis. Oui, effectivement. Mais bon, on est à deux encablures. Qui prennent un acteur pour jouer la baleine, hein, dans le prochain opus. Hein. Je vous spoil un petit peu Avatar 3. Hein. Donc, il va engager des acteurs connus pour faire les baleines. Hein. Donc, on en est là. Donc, effectivement, nous allons suivre le personnage de Naru et de Tabé. Alors, je suis désolé si je prononce mal. Bon, moi, j'ai pas cette culture-là. Donc, du coup, je fais ce que je peux. Voilà. Donc, du coup, Naru et Tabé sont frères et sœurs. On aurait pu dire Tobé aussi, mais ça serait de mauvaise foi. Donc, Naru et Tabé. Alors, Naru est incarné par Amber Midhunter. Alors, pourquoi je rigole? C'est parce que j'ai été sur son wiki, ben, y a rien. Enfin, si, il y a des trucs rouges avec aucun lien. Moi, j'ai vu aucune de ses prods et personne ne les a vus. Et Dakota Beavers, il a même pas droit. Il a même pas droit à un wiki flingué. T'sais, il a rien, lui. Il a même pas d'entrée. Et tout le reste du casting, c'est à peu près pareil. Donc, voilà, pour les voilà, il y a Dakota Beavers dans le rôle de Tabé, qui est le frère. Et Amber Midhunter, Naru, la sœur. Voilà. Ils sont c'est une tribu Comanche. Et alors, ce qui était plutôt cool lors de la première vision, mais qu'on sentait déjà, c'est que, on va dire que le film, il est constitué, en fait, je pense que ChatGPT aurait pu l'écrire. C'est-à-dire, imaginez le prompt, dis-moi ChatGPT, pourrais-tu m'écrire une suite de The Predator qui inclurait les Comanches et le pistolet de... de Raphaël Adolini, je suis sûr comme ça qu'il a été écrit. ChatGPT te répondrait. Alors, dans une première partie, dans le premier tiers du film, nous allons raconter, en fait, le quotidien, en fait, de cette tribu Comanche. Mais il va falloir, quand même, que cela existe en parallèle du Predator. Donc, ils doivent avoir un rituel de chasse initiatique. À l'intérieur va s'inclure le Predator qui est venu, lui, chasser d'autres espèces. Mais par-dessus ça, pour complexifier un peu la donne, comme c'est la construction des 13 colonies, à un moment donné, quand ils vont courir dans la jungle, ils vont tomber forcément dans un piège fait par une des communautés, qu'elle soit anglaise, française, et à ce moment-là, le Predator va exterminer tout le monde. Et tout ça nous amènera dans un climax où le personnage principal du film obtiendra la reconnaissance de sa tribu par la destruction du Predator. Putain, il est fort ChatGPT. Et franchement, j'ai prompté le truc en 2 secondes, il m'a fait déjà le scénario. Incroyable. Donc, voilà ce que raconte ce pré, en fait. Alors, le côté qui est sympa, enfin, comment dire, le côté qui est sympa. Si autant c'est sympa de montrer, du coup, le quotidien de ces tribus, de les faire incarner par des Amérindiens, moi, quand même, quand j'ai regardé le truc, sont quand même... Alors, je suis pas spécialiste hein, dans les tribus amérindiennes. Je pense qu'ils sont renseignés. C'est quand même la tribu amérindienne que t'as mis dans ton jardin où il fait tout le temps beau et tu sens que les tipis ont été posés la veille. Bon, tu sens que ça manque un peu d'ampleur. Voilà, sur la tribu en elle-même, t'as 10 pecnos, ça a autant d'ampleur que les espèces de proto-hobbits qu'on peut voir dans cet immondice produit par Prime Video, comment s'appelle ce truc, la Guerre de l'Anneau, bon bref, voilà, le Seigneur des Anneaux, mais pas le Seigneur des Anneaux, mais fait par Prime Video, voilà, ça a autant d'ampleur que ça, c'est-à-dire, filmé dans ton jardin, avec 3 tipis, et puis voilà, donc, après... Honnêtement, voilà, je suis méchant, je suis un peu médisant. Après, ce que je trouve cool là-dedans, c'est que c'est bien filmé. Voilà. Dan Trachtenberg, si tu m'écoutes, honnêtement, t'as quand même pas mal d'idées de mise en scène, et c'est joli à voir. Voilà. Donc, quand t'es dans ton salon et qu'il fait chaud, voilà, ça je donne le contexte, hein, parce que c'est ce qu'on vit, hein, la canicule, moi j'ai chaud en enregistrant ce podcast, vous avez chaud en l'écoutant, et on a chaud en regardant nos trucs, si vous n'avez pas la clim, et effectivement, c'est tourné en extérieur, c'est pas du fond vert, alors il y en a bien entendu dedans, mais tu sens que la caméra quand elle se balade, eh ben, c'est bien éclairé, ça a de la gueule. Donc déjà, saluons le travail du chef-op, et saluons la réflexion quand on pose la caméra. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Autre qualité aussi de ce métrage-là, voilà, c'est effectivement tout ce qu'il y a autour du Predator lui-même. Donc le Predator est de nouveau montré comme un chasseur, donc c'est-à-dire qu'il a un vaisseau, il se pose, il vient chasser, et on va le voir chasser différents types d'espèces, des loups, des ours, t'as des mano à mano qui sont plutôt bien filmés, fallait avoir l'idée de filmer ce mano à mano entre un prédateur et un ours, donc ça, c'est plutôt cool. Ce que j'ai trouvé plutôt sympa, et je vais citer Air General, que vous avez déjà entendu, alors il n'est pas venu souvent dans ce podcast, mais il était là pour la chronique de la première partie de la saga Rocky, et effectivement, j'en ai discuté avec lui, il m'avait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Predator, là, avec cette espèce d'armure à la con, là. Effectivement, ils sont partis du principe, alors, comme c'est à la fois une préquelle, enfin une suite préquelle, donc ils sont partis, ils ont gardé en tête le côté multiculturel des prédateurs, donc on peut montrer une variante au niveau des mandibules, au niveau de la stature, donc on considère qu'il y a plusieurs tribus, voilà. Et en même temps, je pense aussi que pour eux, c'est une sorte de reboot, voilà. Donc, ils posent des bases d'autre chose. Donc, moi, je trouve intéressant, si c'est creusé par la suite, voilà, ce côté, au niveau de la technologie, ce qu'il va avoir à dispo, qui va être un peu plus moyenâgeux. J'ai bien aimé ce côté un peu plus... on va dire qu'il y a une volonté de revenir au côté un petit peu plus viscéral du film de McTiernan, le Predator original, en lui donnant, en fait, une armure et de la tech... un petit peu plus physique, voilà, plutôt que des petits piou-piou-piou, même s'il garde, on va dire, toujours ses viseurs, voilà, son viseur à 3 points, etc. Le film est gore, voilà, bon, le précédent l'était aussi, mais l'autre était plus dans la déconne, donc le gore était plus un ressort. Là, on rigole pas, en fait. Ou si vous rigolez, c'est involontaire. Mais voilà, c'est sérieux. C'est d'un sérieux papal, même un peu trop. Mais c'est gore, ça tranche des bras. Bon, c'est aussi des hommages à ce qui se passe avec le personnage de Dillon. Hein. Rappelez-vous, Dillon ! Voilà, t'as deux grosses brutes qui serrent la main. C'était le personnage de Carl Weathers. Donc voilà, ça coupe des bras, ça coupe des jambes. À mi-hauteur, c'est assez varié dans le découpage des membres. On serait presque dans Ken le survivant, bordel. Donc c'est plutôt cool. Et effectivement, c'est un gore bienvenu. Alors certains pesteront en dirant que c'est du gore CGI-esque. Voilà, donc il y a beaucoup de gore CGI. Bon, en même temps, on peut pas tout avoir. Hein. Ça reste pour une plateforme. Donc voilà, il y a économie de budget sur ce truc-là. Plus personne se fait chier maintenant à même le plateau. À aller chercher, on n'est pas dans du gore italien de la grandeur. Donc effectivement, c'est pas radin, voilà. Mais moi, ce qui va me poser un problème, voilà, et je vais le dire dès à présent, oui pour un personnage féminin, ça, cette volonté, et c'est bienvenu dans la saga Predator, d'aller tutoyer un peu la saga Alien et de faire de Naru une sorte de replay Comanche au féminin. Franchement, l'actrice joue bien. Elle joue très très bien. Elle fait passer toutes les émotions. Elle se démerde bien dans les combats, etc. Moi, ce qui me pose problème, c'est que le film, et j'ai pas besoin de voyager avec ma DeLorean en 1719 pour voir qu'on me raconte de la merde. Alors, je vais vous expliquer le point de départ de moi qui... Moi, c'est toujours en termes d'histoire que ça me pose un problème. Donc, c'est-à-dire... que montrer une femme forte, oui, mais va pas inventer un postulat de femme forte qui n'existait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une société comme celle des Comanches, hein, dans, voilà, dans ces sociétés-là à l'époque, oui, la femme cueillait, et oui, l'homme chassait. Voilà. Qu'il y ait eu des histoires de femmes qui voulaient chasser aussi. Ça a sûrement existé, ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'aime pas, c'est le traitement qu'il y a dans le film. C'est-à-dire que si on part du principe qu'elle a un frère et que c'est lui le chasseur en chef, eh ben, dans ce cas-là, développe une dynamique où l'un et l'autre s'entraident. C'est-à-dire que lui, il entraide, et l'autre, elle fait que râler, elle est jamais contente pour lui. Le mec, il se démet. Et t'as cette espèce de truc en sous-main qui fait qu'elle ne peut exister que parce que son frère doit mourir, en fait. Voilà la morale de cette histoire, en fait. Donc, son frère, il a son rituel habituel, comme les autres membres de la tribu, mais comme c'est un homme, et qu'elle, on lui refuse, mais on lui refuse pas, bordel, en fait, mais c'est vendu comme ça, donc lui doit crever. Voilà, donc au niveau du scénar, pour qu'elle puisse prendre le relais. Donc, elle verse une larmichette, voilà, quelque part, et elle prend le relais. Putain, écris un truc intelligent, bordel. Dans ce cas-là, tu veux vendre un truc qui n'a pas existé. Je t'invite à faire comme fait Tarantino, quand il fait Inglourious Basterds, quand il fait Once Upon a Time in Hollywood, tu digresses, mais tu fais coexister les deux. Pour que la femme forte existe, l'homme fort ne doit pas mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce vieux message à la con? C'est là le problème. Donc, il y a en filigrane ce côté-là, revendicateur d'un truc que j'avais pas demandé à la base. Donc, c'est-à-dire que, traduction, si j'en observe, c'est pas moi qui ai l'esprit tordu, traduction, si on observe, tous les membres de la tribu mec sont des goujats et des triples buses qui se font étriper, voilà. Le frère, on sait pas si c'est grand frère ou petit frère, peu importe, alors là, sur Wiki, ils disent que c'est petit frère, moi, je suis pas convaincu. Les deux vont être pris dans cette chasse intergalactique, et à un moment donné, t'as ce vieux discours du frère qui se sacrifie en disant « Ouais, mais de toute manière, finalement, c'est toi qui as raison, ça a toujours été toi, le chasseur, le mec se sacrifie. » T'as envie de dire « Mais t'es con, toi, ou quoi ?» Voilà. Et l'autre, elle prend le relais pour, à la fin, amener le truc. Moi, je veux bien, mais putain, vends-moi-le sans me raconter tout ce qui pollue les plateformes à l'ordre actuel. Vends-moi-le sans être woke. Vends-moi-le sans être une autre idéologie actuelle. Vends-moi-le, mais pas comme ça. Je veux dire qu'en Cameroun, il fait Alien 2, c'est Ripley, non? Voilà. Donc l'héroïne, Ripley, c'est l'héroïne de tous les aliens. Putain, on m'a pas vendu un truc aussi flingué. Il y a une femme forte, elle est plus forte que les mecs, mais ils s'entraident. Ils sont pas en train de se désinguer. Voilà. Ou de se sacrifier parce que la femme est plus forte. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc voilà. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Dan Trachtenberg? C'est que si on se retrouve face au Predator, va falloir qu'on se petit suicide pour laisser le relais, mais c'est des conneries. Donc là, le film me pose un problème, c'est-à-dire que l'histoire de la placer dans cette période de l'histoire américaine, oui. Mettre en avant les Comanches, oui. Une femme forte, oui, mais pas comme ça. Putain, vends-moi un autre truc. On se croirait devant les Demoiselles du Téléphone, bordel. Voilà, cette série Netflix où on te vend un combat féminin pendant le franquisme qui a jamais existé. Mais moi, je veux bien qu'il y ait des combats féminins. Mais ne le foutez pas pendant le franquisme. Ouvrez vos livres d'histoire, regardez ce qu'est le franquisme, et on en reparle. Vous verrez que ça n'a pas lieu d'être. Donc, voilà la principale force du film et sa principale faiblesse. À vouloir trop en mettre à l'intérieur, il y avait un truc à faire. C'est vrai que personne n'a émis un personnage féminin et ça permettait de contrebalancer, mais putain, ne le mets pas comme ça. Voilà le problème. Donc le film en lui-même a cette particularité d'être rafraîchissant tout en étant agaçant pour la raison que je vous ai donnée, et putain, à la revoyure, en fait, tout le premier tiers c'est un supplice. Tu t'embarques quand tout se met en place, mais c'est vrai que ça met 30 minutes de trop à se mettre en place. À noter qu'il y a des super plans. Moi, j'aime bien aussi la complémentarité entre Naru et son chien. Pour une fois, on a un chien qui est loin d'être con. Et c'est ce que dit d'ailleurs sa mère au sujet du chien. Parce que Naru dit à sa mère, il est malin. Et elle lui dit, non, il fait pas qu'être malin. Mais c'est vrai que le chien, putain, dans l'histoire canine cinématographique, c'est peut-être le number one. Voilà, donc au-dessus de Belle et Sébastien et de L'Incroyable Voyage et toutes ces conneries, c'est un chien qui fait le chien, héroïque, il y a des scènes d'action, franchement, il est au top. Voilà, donc là, on a un tandem qui marche plutôt bien. Donc, effectivement, il y a pas mal de bonnes idées. Donc, qu'est-ce que ça annonce par la suite? Alors, effectivement, il y a le passage de relais avec le pistolet, ça sort de nulle part d'ailleurs, ça, à un moment donné, on se retrouve dans un épisode où il fallait montrer le côté colonial. D'ailleurs, c'est bienvenu, parce que ça donne un peu plus d'ampleur à ce film où t'as l'impression qu'il n'y avait que 5 figurants, quoi. Bon, il y a les hommages à Jurassic Park, bon, vous verrez, je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, il y a quelques scènes un petit peu comme scène dans les champs, c'est très Jurassic Park dans l'idée. Donc voilà, ça paie un peu son tribut, mais c'est plutôt bien fait. Et effectivement, il y a ce passage de relais avec le pistolet. Bon, ouais, j'ai envie de vous dire, il aurait pas été que ce aurait été pareil, hein, au final, hein, pourquoi pas. Hein. Et tu sens quand même que, putain, c'est quand même naze. Hein. Putain, ça, c'est le côté Disney, t'as envie de les claquer. Putain, ils ont tellement pas de couilles. Tu vois qu'ils tâtent le terrain, ils ont tellement pas de couilles qu'ils font même pas soit une scène post-générique, soit un vrai truc qui laisse ouvert. Non, ils te font l'ouverture dans l'espèce de motion design du générique de fin. Voilà. Cette espèce de motion design, une espèce d'animation 2D flat, un peu en mode tribu qui te résume tout le film, bah à la fin, tu vois qu'il y a deux vaisseaux Predator qui arrivent. Voilà. Ouais, voilà comment ils te teasent la suite. C'est vraiment, vraiment, vraiment de l'ambition, c'est vraiment petit bras comme truc. Donc certains se sont extasiés en disant « Ouais, t'as vu, ils ont fait truc, oui, mais c'est génial, oui, mais c'est de la merde. » Voilà. Donc, enfin, je sais pas, enfin, soit on te donne l'argent pour faire un vrai truc, mais voilà. Je sais, en termes de teasing, par exemple, quand Shyamalan fait revenir Bruce Willis, bon oui, vous voyez déjà qu'il était atteint de sa maladie, mais quand il fait revenir Bruce Willis dans une scène post-générique de Split à la fin, là, voilà, dans cette scène-là, ouais, là, il y a du lourd. Le mec, il se mouille. Tu vois, le mec, il fait venir... ouais, t'avais pas compris. Oh, putain, tu te dis, ouais, c'est... En fait, c'est dans l'univers de... Voilà, là, ça marche. T'as pas fait un gribouillis avec un dessin, bordel. Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire si prêt à marcher, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas son budget, on ne sait pas. En attendant, j'en parle. Les gens l'ont vu. De ce que j'en vois en termes de news, c'est en train de teaser un pré-2, voilà, donc, mais il n'y aura pas de suite, on va dire, comme on a pu le voir de manière classique, à la saga. Et c'est à ce moment-là que moi, je vous livre mon bilan. Alors, bien entendu, il y en a qui vont gueuler, ils vont se dire « Ah, putain, qu'est-ce que c'est que ce palmarès à la con ?» Alors, bien entendu, c'est très subjectif, c'est le mien, mais je vais vous dire mon top. Donc, alors, saga Predator, et j'avais dit que je ferais un comparatif quand j'attaquerai la saga Alien, et on verra qui gagne, en fait. Okay. On fera opus par opus en fonction des tops, si vous voyez ce que je veux dire, pour voir qui c'est qui gagne. Mais... En attendant, dans le top, bon, en number one, ben forcément le Predator original, celui de John McTiernan. En numéro 2, le Predator 2 de Stephen Hopkins. Voilà, je l'ai toujours dit, c'est une excellente suite. Donc, pas aussi bonne que l'original, mais pas loin quand même. En troisième position, et c'est là qu'on va grincer des dents, le The Predator de Shane Black. Eh oui, monsieur, eh oui, madame. Voilà, pour moi, il arrive en troisième position. En quatrième position, je mettrai le Predators, voilà, de Robert Rodriguez. Et en dernier, Prey, parce que c'est le dernier. Et vous allez me dire, et qu'est-ce que tu fais d'Alien versus Predator? Ben, je les ai mis à la poubelle, en fait. Donc voilà, vous pouvez considérer qu'ils viennent après Prey. Voilà mon ordre. Predator, Predator 2, The Predator, Predators, Prey, et les merdouilles de Paul Thomas Anderson et des frères Strauss. Voilà, au fond du gouffre. Voilà, on y est arrivé, on est en août 2023, un an après, voilà, et grâce au réchauffement climatique, voilà, n'oubliez jamais qu'il vient quand il fait chaud, et cette année il fait très chaud, et ben 7ème dimension a débarqué aussi pour boucler la saga Predator. Donc j'annonçais plein de choses, et ben moi j'arrête d'annoncer, en fait, j'ai communiqué directement, comme ça je me mets d'accord avec moi-même sur les vérifs. Donc ça sera du Michael Mann, sûrement du Ali, sûrement du Collateral, peut-être qu'il y aura du Avatar 2, parce que comme je l'ai dit, le karma le demande, il y aura peut-être du Riddick, il y aura plein de choses, et ben ça sera la surprise pour la fois de prochaine. Donc je vous souhaite de passer de bonnes vacances, voilà, si vous êtes encore en vacances au moment où vous écoutez ça, et si vous êtes plus en vacances, et ben bonne bonne reprise. Et si c'est la nuit, eh ben, bonne nuit. Si c'est le matin, bonjour. Et on n'oublie pas, à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le Cinémajor, bordel. Merci pour votre écoute.
Le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de
7ème dimension en mode podcast.